Sud Radio, ça roule, midi, midi 30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et puis je vais faire une phrase complète. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h. En tout cas, il est là, il est midi et 2 minutes. Bonjour Pierre.
Coucou Malolo, comment ça roule?
Eh bien, ça roule plutôt très très bien. Hier, je me suis fait un petit plaisir.
Oh là, vas-y, dis-moi tout.
J'ai roulé en moto.
Ah, ça y est, tu m'as trahi, t'as rajouté 2 roues.
J'ai roulé à l'arrière d'une moto-taxi exceptionnelle, parce que pour M6, il fallait que je parte très vite quelque part. J'ai appelé une moto-taxi, il y a 2 femmes en France qui sont moto-taxi, je suis tombée sur une d'entre elles, donc je peux te dire que nous allons l'inviter, mon Pierrot.
Ah oui, ça y est, t'as son portable, c'est devenu une copine, c'est parti.
Tu me connais, et quelqu'un d'exceptionnel, et c'était magnifique de rouler avec sa Goldwyn 1800 en plein Paris, je peux vous dire que c'était un vrai bonheur, donc on parlera évidemment...
C'est pas à moi que ça arriverait ça, hein,
ah ben non,
de tomber sur...
Le train.
Voilà, moi j'ai pas de chance, moi. Moi je tombe que sur... Bon, j'adore les gars, hein, c'est super, mais vous savez tous que moi, bon, ça m'aurait bien dit d'être sur la moto avec une gentille dame.
Et puis que oui, mais alors le truc c'est qu'en moto ils n'ont pas de dieselgate. On va parler de dieselgate aujourd'hui. Il y a eu Renault, maintenant le groupe Stellantis est aussi touché avec Peugeot entre autres et pas seulement. On va en parler de ce dieselgate parce que ça commence à faire couler beaucoup d'encre, Pierre.
Ouais, ça commence. Et puis si on le fait pas, on va encore dire ouais, Pierre Chasseret, Laurence Perrault, c'est le lobby des constructeurs, etc., etc. Donc on va vous dire toute la vérité. On va vous expliquer pourquoi Peugeot, comme Renault, surtout Renault, mais bien aussi Fiat, ont été inquiétés. Et qu'est-ce qu'on risque, nous, en tant qu'automobilistes? Est-ce que nos voitures vont être dévaluées? Bref, on fait le tour en une petite vingtaine de minutes.
Exactement. 12h04, 0826, 300, 300. Notre invité est prêt, il est casqué et microté. On le rejoint tout de suite.
Sud Radio, ça roule.
Jean-Rémy Macquia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, entre autres, journaliste spécialiste auto. Vous travaillez beaucoup pour Ouest France, mais pas seulement. Et vous avez toujours un regard extrêmement précis et vrai sur le monde de la voiture et de l'automobile. Alors, est-ce qu'on peut continuer à avoir confiance? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Et vous venez nous rejoindre au 0826 300 300. Le dieselgate, vous l'avez senti venir parce que ce n'est pas une surprise.
Si, le scandale, quand il a éclaté, c'était à la rentrée, à l'automne 2015. Ça a étonné tout le monde. On a été stupéfié par l'ampleur de la chose. Donc c'était quoi le Dieselgate? C'est donc le scandale autour des voitures homologuées aux États-Unis par Volkswagen, Audi, pour vendre du diesel. Il n'y avait pas de diesel aux États-Unis parce que le diesel n'arrivait pas à passer les normes assez contraignantes en matière de rejet d'oxyde d'azote. Et eux, ils ont dit, mais nous, on va lancer le clean diesel, le diesel propre, parce qu'on a un système de filtration qui évite d'avoir des rejets excessifs d'oxyde d'azote. Donc, on vous propose, vous, Américains, sur le marché nord-américain, Canada et États-Unis, des voitures clean diesel. Et on va passer les normes. Sauf que pour passer les normes, ils avaient un système techniquement qui n'était pas tout à fait satisfaisant. Et donc, ils ont un peu forcé la nature en truandant les logiciels de gestion des voitures, puisque toutes les voitures ont un logiciel de gestion moteur. Et lorsque les voitures passaient au banc d'homologation, le logiciel reconnaissait qu'elle était en test. Et donc, elle améliorait le score des émissions polluantes, alors que quand elle était dans la vraie vie, elle allait émettre 2, 4, 6 fois plus d'oxyde d'azote. Et quand le poteau rose a été découvert, le poteau rose c'était donc 2015, mais la tricherie remontait à 2009, et ben voilà, il y avait à peu près 400 000 voitures vendues sur le continent nord-américain qui étaient concernées, et au total 11 millions dans le monde.
Et voilà. Alors là, j'ai bu les paroles de Jean-Rémy, parce que Jean-Rémy, c'est toujours ça. C'est moi, pour moi, le meilleur journaliste auto qui existe, parce que c'est toujours précis, pointu, parfait. Et puis maintenant, on va étendre un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Ça date de 2009. Derrière, en France et en Europe, on s'emballe. En Allemagne, on peut comprendre pourquoi, parce que ça touchait une marque allemande, donc ça a été un véritable séisme, d'autant que Volkswagen était tantôt le premier ou le deuxième constructeur mondial. Séisme. Et ensuite, en France, notamment, beaucoup d'ONG écologistes se saisissent de ça pour créer un amalgame sur les motorisations et notamment jeter l'opprobre sur le diesel. Et maintenant, il y a eu, en 2016, la commission Ségolène Royal qui s'est montée. Des perquisitions à l'époque chez tous les constructeurs. On n'a rien trouvé. Ça date quand même de 2009. Hein.
Oui.
On n'a rien trouvé. Seulement, on a trouvé une petite chose. C'est que chez certains constructeurs, le système, comme l'a expliqué Jean-Rémy, n'était pas très satisfaisant. Notamment chez Fiat et Renault qui utilisaient un système dit « piège à Nox. Ce système était parfait pour permettre de vendre les véhicules en toute honnêteté, en toute homologation, puisqu'à l'époque, je rappelle, le système d'homologation, c'était pas en conditions réelles de circulation, WLTP, enfin, ou proche. C'était uniquement sur rouleau, laboratoire, conditions laboratoire. On en avait beaucoup parlé. Donc, en fait, les constructeurs n'avaient pas triché. Ils utilisaient juste un système qui laissait apparaître des grandes différences entre les cycles en homologation et les cycles en réel. Mais attention, l'homologation était parfaitement respectée. Alors, je vais commencer par rassurer tous ceux qui roulent en Renault ou en Fiat. Ok, ils n'avaient pas à l'époque le meilleur système pour les Nox, mais il était parfaitement légal.
Nous avons Marc au 0826 300 300, puisque c'est, vous le savez, votre émission aussi, et que sur Sud Radio, parlons vrai et on vous laisse parler. Bonjour Marc.
Bonjour, je suis content que vous m'appeliez. Écoutez, je vais donner mon avis, mais vous savez, je suis pas un spécialiste, et d'ailleurs c'est pas tellement mon domaine, donc forcément que je vais donner plutôt mon avis, mais après je n'ai pas de grandes compétences, et j'ai pas envie d'être ce qu'on dit maintenant, ultra crépide arianiste, mais d'un autre côté je peux donner mon avis. Je crois qu'à l'heure actuelle, tout avait commencé je crois en 2010.
On vient de refaire tout l'historique, mais vous avez...
Justement, mais moi je veux le rappeler quand même, en disant que voilà, ça a été fait, et forcément... Si jamais il n'y avait pas eu cet essai-là, ben Volkswagen, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a relancé le système pour indiquer que Renault, Peugeot et tout le monde faisait pareil. Tout le monde fait pareil.
Non.
Et à l'heure actuelle, si les ingénieurs pouvaient faire un système qui ne pollue pas, ça se saurait. Alors, à l'heure actuelle, tout le monde, et ça pollue.
Et si Marc ?
Mais les voitures, c'est je viens. Mais dans ce cas-là, on va garder les avions, on va garder les bateaux, on va garder tous ces éléments qui effectivement polluent. Mais après, de faire justement un problème, moi je trouve pour ma voiture, personnellement, j'avais une Audi. J'ai toujours. Eh bien, écoutez, ça ne m'a rien coûté de plus d'aller vérifier, effectivement.
Oui, que tout allait bien.
Et en plus, si vous voulez, je crois qu'il y avait même une émission, je crois qu'il y avait, une émission qui avait été faite, je crois que le nom c'était, elle s'appelait Lucie, quelque chose comme ça, Élise Lucet, qui avait fait
Élise Lucet.
Et voilà. Je crois qu'ils avaient fait un test et que ça avait été trois fois plus polluant sur la chaîne que ce qui était
prévu.
Alors,
réponse de Pierre et de notre
attention,
invité,
parce que Laurence a bien fait, on vous interrompt juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. L'émission d'Élise Lucet, c'était une émission qui voulait faire du buzz, du scandale. Donc, ils avaient mesuré en conditions plus ou moins réelles pour les comparer à des normes. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme si demain, vous comparez, une conduite, la consommation d'une conduite en super sportive avec une 205, une 208 dans laquelle vous rouleriez tout pépère. Ça n'a strictement rien à voir. On a créé du scandale, mais quand vous dites « on n'a pas de véhicule aujourd'hui parfaitement propre », alors oui et non, un véhicule propre, ça n'existe pas, déjà. Pour commencer. Mais les systèmes, Jean-Rémy Macia, ils ont évolué.
Oui.
Les systèmes, notamment sur les oxydes d'azote, les constructeurs ont répondu à cela.
Oui,
aujourd'hui, il existe des systèmes qui sont plus efficaces qu'à l'époque, en
Jean-Rémy
tout cas.
Alors, on va préciser les choses. Au moment où les filtres à oxyde d'azote commencent à exister, il en existe de deux sortes. Il y a le SCR, qui est très efficace, qui arrive à éliminer à peu près 70% ou 65% des émissions d'oxyde d'azote. Et puis, il y a le piège à NOx, qui est un système à la fois moins efficace, on n'en enlève qu'un tiers au lieu de deux tiers des oxydes d'azote, et surtout, suivant les conditions d'utilisation, suivant la façon dont vous conduisez, donc vous utilisez votre voiture et sollicitez le moteur, vous n'aurez pas le même résultat à l'échappement. C'est-à-dire que si vous conduisez assez vivement, avec des accélérations fortes, répétées en ville, à relativement basse vitesse, vous allez sur-émettre des oxydes d'azote à l'échappement. Donc c'est ce système-là qui malheureusement a été retenu par certains constructeurs parce qu'il était aussi 3 fois, 4 fois moins coûteux et il était beaucoup moins efficace dans la vraie vie.
Mais alors la question que l'on va poser juste après cette pause, si vous le voulez bien, et merci à Marc d'être intervenu et d'avoir mis son petit pavé dans la mare, c'est est-ce que, un, on peut nous faire confiance aux constructeurs auto aujourd'hui ? Est-ce que, deux, on peut continuer à acheter, y compris des véhicules diesel, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin de la motorisation diesel, sans savoir que peut-être dans 2 ans, on va nous dire « Non, vous êtes hors norme, hop, on vous reprend votre voiture ». Voilà, la confiance, est-ce qu'on peut continuer de l'avoir ? 0826 300 300, et puis comment ils vont s'en sortir, tous nos constructeurs, là ? À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, ça roule, midi 30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous parlons évidemment du Dieselgate avec tout ce qui se révèle. Il y a eu Renault, puis maintenant il y a Peugeot et puis il y a tous les autres. Et alors, vous pensez quoi, vous? Est-ce que vous avez la sensation que vous pouvez continuer de faire confiance en allant acheter vos véhicules, surtout lorsqu'il y a besoin d'avoir un véhicule diesel? Je pense aux flottes d'entreprises ou même aux gens qui en ont besoin au jour le jour parce qu'ils font plus de 25 000 km par an. Voilà, c'est aussi une des vraies raisons.
Ouais, ou des longs trajets.
Oui, exactement. Vous nous rejoignez au 0826 300 300 pour nous dire si oui ou non, ça ne vous fait absolument pas peur, ce Dieselgate. Et vous continuerez de faire confiance. D'ailleurs, je crois que nous avons Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre et bonjour à tous.
Salut aussi... Laurent, alors bientôt en zone à faible émission, bien sûr, vous ne pourrez plus rouler. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire de beau?
Alors Laurent, vous écoute.
Eh bien, entre les pistes à vélo et les changements de circulation, on peut déjà pas très bien rouler.
C'est vrai.
C'est pas la peine d'attendre dans les zéro émissions.
Ah bon, on va finir le boulot.
Voilà, exactement. Oui, alors, mais bien sûr, moi-même, je roule en diesel. C'est un véhicule récent, là, de Euro 6, hein, qui date de 2020. Ouais. De 2020. Donc, pas de problème. Enfin, il faut commencer par le début. Quand on raffine du pétrole, quand on le passe à l'alambic, en haut, il y a la vapeur, les GPL, hein, c'est-à-dire propane et butane, et en bas, il y a les liquides qui descendent, eh ben, le kérosène, le gasoil et l'essence. Bon, alors le gasoil, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Dès qu'on raffinera du pétrole, il y aura du gasoil. Alors, ou on le met dans un trou, ou on le met dans des moteurs à explosion, enfin, à compression. Hein. Et oui, il faut en faire quelque chose. D'ailleurs, la France importe du gasoil parce que au raffinage, comme on a beaucoup de demandes de gasoil, quand on raffine en France, eh ben, il en manque, donc on en importe. Et on exporte de l'essence.
Alors, Laurent,
oui, Jean-Rémy Macquia,
notre invité. C'est extraordinaire ce que vous dites, parce que c'est un argument qu'on entend rarement. Effectivement, quand on retire du sous-sol, un litre de pétrole, de façon assez invariable, ou avec de petites variations suivant les endroits, on a effectivement du fuel lourd en bas, hein, c'est le carburant le plus pâteux et le moins pur. Tout en haut, on a effectivement des gaz, et entre les deux, on a l'essence et puis le diesel qui se balade vers la partie médiane inférieure. Et effectivement, on ne peut pas changer à l'extraction cette proportion, elle est absolument invariable. Donc qu'est-ce qu'on va faire du diesel?
C'est une vraie question.
Et il se trouve que le diesel a deux avantages quand il est brûlé dans la voiture. Le diesel, je précise, du temps où il était vraiment nocif et cancérigène et détestable pour la santé, avec des tas de dégâts pour notre santé physique.
C'était avant,
c'était du temps, souvenez-vous, où il y a plus de 15 ans, il y avait des panaches noires énormes à l'échappement des diesels. Ça, c'est fini grâce aux filtres à particules. L'oxyde d'azote, les oxydes d'azote, ça fait une teinte brunâtre au-dessus des villes. Je ne dis pas que ce soit bien non plus, et ça fait des maladies cardio-respiratoires. Ce n'est pas bien, mais on a quand même diminué ça, heureusement. S'il fallait interdire le diesel, c'était il y a des années. En attendant, aujourd'hui, et grâce aux normes qui sont extrêmement contraignantes, qui sont draconiennes, l'endroit où on brûle le diesel de la manière la moins sale, pas la plus propre, mais en tout cas la moins sale,
c'est dans un moteur de voiture.
Parce que le kérosène des avions, qui est du diesel, il n'y a pas de normes.
Ouais.
Je ne vous parle pas de ce que crachent les bateaux, les panaches de fumée, vous les voyez, gros tankers, ou même des petits bateaux de plaisance. Ça crache absolument sans filtre tout ce que ça veut en particules et en oxyde d'azote. Il n'y a pas de normes. Donc l'endroit où c'est le moins sale du brûlé du diesel, eh ben, c'est tout simplement
le moteur de la voiture
grâce aux normes. Donc vouloir supprimer le diesel, c'est une aberration, parce que tant qu'on sera dépendant du pétrole, le jour où il y aura plus d'utilisation de pétrole, tant qu'on utilise du pétrole, il faudra utiliser du diesel. Et je rappelle que le diesel a un avantage extrêmement pertinent, c'est qu'il émet moins de CO2 à la combustion que l'essence, parce qu'il est moins consommé en moindre quantité dans un moteur, donc moins de CO2, donc il réchauffe moins la planète que l'essence.
Mais alors ça veut dire quoi, Pierre et Laurent, là, qui vient de soulever, merci Laurent d'être intervenu sur le 0826-330. Oui, je vous écoute Laurent, mais après j'ai une question à poser, et comme vous dites, tant qu'on aura du pétrole et besoin, on aura du diesel, donc au lieu de taper dessus à bras raccourcis, faisons en sorte...
C'est de l'idéologie.
Bah oui.
Laurence, allez, c'est l'heure.
Attends, tout de suite, on laisse Laurent finir avant.
Mais je vais lui répondre alors.
Vas-y, mon Pierre.
C'est de l'idéologie en fait. Et Laurent, il a mis le doigt là où il fallait. C'est qu'en fait, il y aura toujours du diesel à partir du moment où on fabrique de l'essence. Et Jean-Rémy, toujours le meilleur journaliste auto, toujours pointu, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, évidemment, dans le réservoir, c'est l'endroit où on pourra utiliser au mieux ce diesel et faire en sorte qu'il soit le plus filtré. Aujourd'hui, on a face à nous un discours écologiste qui n'est pas un discours écologiste, qui est un discours de décroissance. Parce que l'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est la recherche et développement. Là, on est dans la décroissance. C'est-à-dire qu'on a décidé d'utiliser l'affaire Volkswagen, qui a maintenant plus de 10 ans, pour faire en sorte de jeter l'opprobre sur les motorisations diesel et justifier les mesures anti-voiture dans les centres-villes et dans les agglomérations, comme ce pauvre Laurent qui va se retrouver à Montpellier ou aux environs sans pouvoir utiliser sa voiture. Là, voilà la problématique. C'est qu'aujourd'hui, on confond tout. On a confondu les émissions en conditions réelles de circulation avec les normes. Ça n'a rien à voir. Si demain, Jean-Rémy, on prend une voiture, il fait un trajet avec, je fais le trajet avec la même voiture, Laurence le même et Bernard Darniche le même, on n'aura pas les mêmes données de consommation et de pollution. Et moi, je suis étonné par un point. C'est qu'on est là à expliquer que les constructeurs, ils trichent, ils sont pas bons et blablabla sur des bêtises, parce que c'est pas vrai. Mais en revanche, ça gêne personne de faire l'aude de la voiture électrique qui fait soi-disant 350-400 km d'autonomie et qui, en conditions réelles de circulation, en fait plutôt 200 ou 250. Ça gêne qui? On continue à faire la promotion du véhicule électrique alors que ce véhicule ment outrageusement à celui qui l'achète, parce que la consommation effective, celle qu'on vous vend, jamais vous l'atteindrez.
Jean-Rémy?
Jamais.
Réaction sur ce que vient de dire Pierre sur Sud Radio?
Alors, la conduite d'une voiture électrique, si on veut coller aux chiffres annoncés d'autonomie,
faut prier.
Il faut non, on y arrive Pierre, non, faut pas exagérer, il faut avoir ce qu'on appelle une éco-conduite, mais absolue,
oui.
C'est-à-dire anticiper tous les ralentissements pour freiner le moins possible. Et évidemment, le grand ennemi de l'autonomie d'une voiture électrique, c'est pas la ville, hein, c'est pas là où elle consomme le plus, contrairement à une voiture diesel ou essence, c'est l'autoroute, c'est la vitesse, l'ennemi de l'autonomie électrique. Donc, sur autoroute, effectivement, vous êtes à un bon tiers de moins d'autonomie par rapport à ce qui est dit par les constructeurs. Je dis, l'autonomie qui est affichée, c'est un mix ville-route-autoroute. On comprend que c'est pas purement une autonomie autoroutière. En attendant, vous déchantez quand vous êtes sur autoroute.
Une petite minute seulement, tous les deux, donc je voudrais juste qu'on revienne un petit peu, qu'on s'écarte pas sur l'électrique, ça fera l'objet d'un autre sujet. Mais sur ce dieselgate, comment ils vont s'en sortir, nos constructeurs? Ils ont raison, tous les Pierre vient nous expliquer que... Et vous aussi.
Alors, sur le dieselgate, c'est clair, ce scandale a effectivement jeté le discrédit sur l'honnêteté de tous les constructeurs. Volkswagen, qui l'a joué après de façon très modeste et petit bras, sans dire non, on nous attaque, on a tort. Non, ils ont
tous,
été assez transparents.
Mais
du coup,
ça, ouais.
Tous les constructeurs sont discrédités. Je ne dis pas que l'industrie automobile est la plus vertueuse qui soit, mais ce n'est pas non plus les absolus salauds.
Mais comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir?
Pour l'instant, ils ne disent rien, Laurence. Pour l'instant, ils observent un grand silence parce qu'ils ont compris que malheureusement à partir du moment où une fois un constructeur a triché, c'est comme le dit Jean-Rémy, ça a jeté l'opprobre sur tous les autres et il manque de crédibilité. Pour
alors,
renforcer
priori,
cette crédibilité, il va falloir un petit peu de temps.
Il commence à parler, il commence à dire non, stop, attendez, nous les normes elles ont respecté, il y a des choses effectivement après
ils comptent sur la justice.
À peu près les doigts quand même dans le... Mais le problème c'est pas eux, c'est les normes qui sont imposées.
Là on va vraiment vers un vrai délire dans les années qui viennent.
On en reparlera sur Sud Radio. On parle en vrai sur Sud Radio. Merci beaucoup, Jean-Rémy Macquia.
Merci, au revoir.
Journaliste spécialisé et très, très honnête sur le monde de l'automobile. Mon Pierre, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, toi, dès lundi matin, pour ta chronique Ça roule dans les grands matins. Et quant à nous, on se retrouve samedi prochain.
Et attention, parce que lundi, écoutez-moi bien, vous tous qui m'écoutez, je vous conseille d'être matinal, 6h17 sur Sud Radio, parce que vous allez voir, je vous avais promis qu'il allait se passer quelque chose sur les zones à faible émission. Je vous donne rendez-vous sur Sud Radio, dès lundi matin, on va être avec vous de votre côté.
Le rendez-vous est pris, merci beaucoup. Tout de suite, c'est Alain Marty avec Invino sur Sud Radio. Bon week-end à tous.